Vous écoutez RFI, les 11h en temps universel, 13h à Paris. RFI Midi, présenté par Anne Cantner. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. RFI Midi, un tour du monde avec nos correspondants, avec nos invités et à la une ce mercredi, l'ouverture du conclave. Les cardinaux se réunissent à partir de cet après-midi pour désigner le nouveau pape. Nous appellerons notre envoyé spécial au Vatican dans une demi-heure et dans Afrique Midi, vous entendrez le cardinal Jean-Paul Vesco, archevêque d'Alger, nous raconter les coulisses des dernières réunions ayant précédé ce conclave. Il est l'un des 17 représentants du continent africain pour l'élection du chef de l'Église catholique. L'autre grand sujet du jour, c'est la guerre entre l'Inde et le Pakistan. Après des jours de tensions croissantes depuis l'attaque des civils dans la partie indienne de la région disputée du Cachemire, attaque meurtrière, il y a eu des bombardements la nuit dernière. On déplore au moins 26 morts côté pakistanais, 12 en Inde. De très nombreux appels à la retenue se succèdent, venus du monde entier. Vous entendrez dans quelques minutes un témoin de ces frappes au Pakistan.
RFI Midi.
À la une également, cet accord entre les Houthis du Yémen et les États-Unis, annoncé quelques heures après un regain de tension des frappes israéliennes ayant détruit l'aéroport de Sanaa. Il y avait eu aussi récemment des frappes contre un camp de détention de migrants attribué aux États-Unis par les Houthis. Alors que contient cet accord? Que va-t-il changer à la fois en mer Rouge et pour la région au Proche-Orient? Nous poserons ces questions à notre invité dans un peu plus d'une heure. Et puis dans notre rendez-vous d'Haïti et des Amériques, reportage à Port-au-Prince où les gangs recrutent de plus en plus d'enfants à tel point qu'ils représentent aujourd'hui entre 40 et 50% de ces groupes criminels. Voilà pour le programme. Bienvenue. Et d'abord le journal. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour.
Avec donc cette situation entre l'Inde et le Pakistan.
Oui, fini les escarmouches. Ces dernières heures ont vu les artilleries et les aviations entrer en action. Les deux armées ont échangé des attaques le long de leurs frontières. Il y aurait au moins 26 morts côté pakistanais et 12 côté indien. Tout de suite, un témoignage recueilli au Pakistan, celui d'un habitant de Bahawalpur, ville du Punjab, où l'Inde a frappé la nuit dernière à quelques kilomètres de son domicile.
Il y a eu une énorme explosion, c'était la nuit. Il y a eu tellement de détonations que nous nous sommes immédiatement précipités sur le toit de notre maison. Là, nous avons vu une lumière orange qui a rapidement viré au rouge sous nos yeux. Environ 5 secondes plus tard, nous avons entendu une autre explosion et les gens ont commencé à sortir précipitamment de chez eux. Après ce qu'il s'est passé la nuit dernière et cette situation actuelle, tout le monde est effrayé maintenant. Mais en même temps, le moral est bon et nous sommes prêts à faire face à n'importe quelle situation.
Un habitant de Bahawalpur au Pakistan, joint par Sonia Ghezali au téléphone. La communauté internationale appelle les deux puissances voisines à faire preuve de retenue. Selon l'ONU, le monde ne peut pas se permettre une confrontation militaire Inde-Pakistan. Voyons maintenant quelles sont les forces en présence. Avec Franck Alexandre, notre spécialiste défense, c'est l'Inde qui a l'avantage et même nettement.
Sur le papier, le rapport de force entre les deux frères ennemis est nettement à l'avantage de l'Inde, pays le plus peuplé du monde, 1,4 milliard d'habitants face à seulement 240 millions de Pakistanais. Et cet écart se retrouve également dans les effectifs militaires. Selon les statistiques de l'Institut international pour les études stratégiques basé à Londres, les forces armées pakistanaises comptent 660 000 militaires, dont la moitié sont des policiers et paramilitaires, pour un budget sur l'année 2025 de 10 milliards de dollars. Dans le détail, ces forces disposent de 812 avions, 322 hélicoptères et plus de 4000 pièces d'artillerie. L'armée indienne, c'est un géant à côté. 1,5 million de soldats, 1500 avions, 1000 hélicoptères et un budget annuel de 80 milliards de dollars. Mais les deux belligérants sont des puissances dotées de l'arme nucléaire. Islamabad dispose de missiles nucléaires intermédiaires, sol-sol, ainsi que d'une composante nucléaire aérienne. L'Inde dispose d'armes équivalentes. En cas d'affrontement, le seuil nucléaire est donc rapidement atteint, ce qui a pour effet de rééquilibrer le rapport de force.
Franck Alexandre, spécialiste défense à la rédaction. 15 jours après la mort du pape François, début aujourd'hui à Rome du conclave, nom donné à ce processus électoral qui aboutira au choix du successeur, de la fumée blanche s'échappera alors d'une cheminée de la chapelle Sixtine. Nous n'en sommes pas encore là, les quelques 1,4 milliard de catholiques contre la planète devront sans doute patienter quelques jours. Ce matin, les cardinaux venus du monde entier ont célébré dans la basilique Saint-Pierre la messe précédant l'ouverture du conclave. Le premier vote des 133 cardinaux électeurs est prévu en fin d'après-midi.
Également dans l'actualité aujourd'hui, la première réception à Paris du nouveau chancelier allemand.
Oui, hier, Friedrich Merz a été élu dans la douleur au Bundestag. Il a fallu 2 tours de scrutin alors que ce devait être une formalité. Le chancelier rencontre en cette mi-journée Emmanuel Macron, entretien suivi d'un déjeuner de travail. Tous deux vont tenter de relancer le moteur franco-allemand. Le chancelier Merz se rendra ensuite à Varsovie, autre capitale où il compte relancer des relations en souffrance. Et puis autre visite officielle aujourd'hui à Paris, celle-ci est très controversée, celle que fait cet après-midi le nouvel homme fort de la Syrie, le président par intérim Ahmed El-Shara, reçu cet après-midi par Emmanuel Macron depuis qu'il a pris le pouvoir cet hiver à la tête d'une coalition islamique. C'est la première fois que cet homme au passé djihadiste a droit à tant d'honneur en Occident. La droite et l'extrême droite française sont montées au créneau pour critiquer le président français. Reportage à l'Assemblée de Raphaël Delvolvé.
À l'extrême droite, la chef des députés RN dit sa consternation, Marine Le Pen.
Il est un islamiste, il distribue des passeports à tous les djihadistes de toute nationalité, alors que notre pays a été frappé par des attentats. Le président de la République commet une provocation.
Sa réputation, son passé djihadiste, mais aussi les soupçons sur sa possible complaisance face au récent massacre de Druze et d'Alaouit sont à la liste des griefs. Ça divise les soutiens du gouvernement à l'Assemblée. Le chef des LR, Laurent Wauquiez, dénonce une lourde erreur, tout comme la députée Anne-Laure Blin.
Accueillir sur le sol national un président syrien pose de grandes questions. C'est, je crois, une faute.
Pour le modem Richard Ramos, il faut recevoir le président syrien, aussi sulfureux soit-il.
Évidemment que je le combats, mais je pense que quand on est dans de la diplomatie et qu'on a des choses à dire, même désagréables à des gens, il faut le recevoir pour pouvoir leur dire.
La gauche aussi est d'accord pour rétablir le dialogue avec la Syrie post-Assad. Un dialogue exigeant, espère l'insoumis Bastien Lachaud.
Il faut une réelle transition démocratique, que les droits humains soient respectés. J'espère que c'est un discours de fermeté que le président portera.
Ce sera d'ailleurs aussi le rôle du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui a déjà rencontré Ahmed Al-Shara et pour qui il serait irresponsable de ne pas le recevoir à Paris. Sinon, je cite... C'est tapis rouge pour Daesh.
Reportage de Raphaël Delvolvé. Aujourd'hui, 7 mai, cela fait 3 ans que les Français Jacques Paris et Cécile Kohler sont emprisonnés en Iran. Le régime islamique les accuse d'espionnage d'État. À l'occasion de cet anniversaire, RFI recevait ce matin Noémie Kohler, la sœur de Cécile. Les nouvelles ne sont pas bonnes, a-t-elle confié. Tous deux vont mal. Les deux prisonniers sont privés de tout ou presque. On ne leur donne même pas de quoi écrire.
Direction le Venezuela, à quelques semaines maintenant d'élections régionales.
Oui, on a appris que 5 opposants au président Maduro avaient été admis sur le sol américain. Annonce faite hier soir à Washington, où le secrétaire d'État Marc Rubio a salué, je cite, l'opération de sauvetage réussie de ses héros. Ces 5 opposants s'étaient réfugiés dans l'ambassade d'Argentine à Caracas, quelques mois avant la réélection contestée du président Maduro. Juliette Chénion, bonjour. Les 5 étaient restés enfermés pendant plus d'un an.
Oui, pendant 412 jours, très exactement. Ces 5 très proches collaborateurs de Maria Corina Machado, tous menacés d'arrestation, avaient mené la dernière campagne électorale depuis l'ambassade d'Argentine. Ces derniers mois, ils se disaient très inquiets et dénonçaient des coupures régulières d'électricité et d'eau, ainsi qu'un manque de nourriture. La leader de l'opposition vénézuélienne a donc remercié hier les États-Unis pour cette opération. Elle a aussi appelé à libérer les 900 autres prisonniers politiques. Le chef de la diplomatie américaine s'est lui gardé de donner des détails sur cette exfiltration. Quant à Nicolas Maduro, actuellement en Russie, il n'a pas réagi pour le moment. Mais la presse vénézuélienne, proche du pouvoir, assure que c'est bien le gouvernement vénézuélien qui aurait donné des laissez-passer aux opposants après négociation. Cette libération risque d'envenimer des relations déjà tendues entre les deux pays. Pour rappel, le Venezuela a déjà dénoncé à plusieurs reprises l'expulsion par les États-Unis de 200 Vénézuéliens envoyés dans des prisons du Salvador en mars dernier.
Juliette Chénion en direct dans ce journal. Merci à vous. Dans l'actualité économique, à retenir cette première depuis l'imposition par Donald Trump de droits exorbitants sur les produits chinois. chinois et depuis la riposte de Pékin. La Chine et les États-Unis annoncent qu'ils se réuniront le week-end prochain en Suisse. Les deux puissances jetteront les bases de négociations commerciales. Des négociations organisées à la demande des États-Unis, a tenu à préciser ce matin un porte-parole à Pékin. Et puis parallèlement, la Banque centrale chinoise a annoncé un train de mesures afin de soutenir l'économie du pays. Économie chinoise menacée par la guerre commerciale avec Washington, également par une consommation intérieure morose.
Du foot à présent.
Du football, oui, avec au programme ce soir la seconde demi-finale retour en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain accueille au Parc des Princes les Anglais d'Arsenal. Vainqueur 1-0 au match aller, le PSG a une bonne chance de se qualifier pour la finale. Et ce serait une première depuis 5 ans et celle perdue contre le Bayern de Munich. Cédric De Oliveira.
L'an dernier, Mehdi avait mal vécu l'élimination contre Dortmund. Alors cette année, il se dit que le PSG est mieux parti. Pour ce supporter abonné au Parc des Princes, son club a toutes les cartes en main.
Ouais, c'est bien, je suis confiant. Ça va le faire. Toutes les étoiles sont alignées là pour que Paris fasse un bon match.
Galvanisé par cette victoire précieuse 1-0 à Londres, les Parisiens vont en plus pouvoir compter sur le soutien massif de leurs supporters. Le défenseur Achraf Hakimi est impatient de retrouver son public.
On sait que ça sera une soirée très particulière pour tous les Parisiens. L'ambiance risque d'être incroyable à l'intérieur et à l'extérieur du stade. Après tout ce qu'on a traversé cette année, on mérite d'aller en finale et nos supporters aussi.
Une qualification viendrait entériner les progrès du PSG tout au long de la saison. Mais de l'autre côté, il y a Arsenal et cette volonté de tout renverser. L'entraîneur parisien Luis Enrique espère que ses joueurs sauront y faire face.
La confiance que les supporters ont en nous, il faudra essayer de leur rendre. À mon sens, il faudra se rapprocher de notre performance là-bas pour nous qualifier, tout en restant fidèles aux idées qui nous ont portés jusque-là.
Impressionnant à Londres, le PSG va donc tenter de faire aussi bien pour se hisser en finale de cette Ligue des Champions. Ce serait la deuxième fois de son histoire après l'édition 2020.
Cédric De Oliveira, Paris Saint-Germain, Arsenal, à suivre en intégralité ce soir sur RFI dès 18h50, temps universel. J'ajoute que le vainqueur sera opposé en finale à l'Inter de Milan, l'Inter qui a sorti hier soir Barcelone. Bonne journée sur RFI, je vous laisse en compagnie d'Anne Cantner.
Merci Gilles Moreau, à tout à l'heure.
RFI. France à midi.
L'actualité en France, pour commencer, on va se pencher d'abord sur un sujet qui fait souvent l'objet de blagues, de caricatures, mais qui est très sérieux, c'est le rapport des filles aux mathématiques. Elles sont nombreuses à bouder cette discipline, contrairement aux garçons. Et la ministre de l'Éducation nationale veut y remédier. Elisabeth Borne présente un plan intitulé « Filles et maths ». L'objectif, c'est 50% de filles dans la spécialité mathématiques à la fin du lycée en terminale en 2030. Bonjour Laurence Théo.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
D'abord, il faut préciser que ce plan s'appuie sur un constat.
Oui, d'après les études internationales, la France est le pays d'Europe où l'écart de performance entre filles et garçons en mathématiques, en classe de CM1, est le plus important. Ça prouve que les stéréotypes de genre pèsent depuis le plus jeune âge et conduisent une minorité de filles à se lancer dans une carrière scientifique. De la même façon, dans l'enseignement supérieur, les filles représentent seulement un quart des étudiants en sciences de l'ingénieur, mathématiques et informatique aujourd'hui. Cette proportion stagne, Anne, depuis 20 ans.
Alors justement, la ministre de l'Éducation nationale veut redresser la barre. Avec quel objectif ?
Alors, pour aller vers plus d'égalité, la ministre lance un plan au titre succinct, hein, vous le disiez tout à l'heure, filles et maths. Son ambition est de porter de 42% à 50% leur nombre dans la spécialité mathématique en terminale générale et d'atteindre 30% de filles dans chaque classe préparatoire scientifique d'ici 5 ans.
Et comment est-ce qu'elle compte s'y prendre ?
Alors, la ministre propose de former les enseignants aux stéréotypes de genre, autrement dit, ce qui, dans l'inconscient collectif, appartiendrait aux filles ou aux garçons. À titre d'exemple, les garçons, c'est les maths, les filles, le littéraire. Une formation de 2 heures sur le sujet sera donc réalisée avant le 15 septembre par les chefs d'établissement ou les directeurs d'école, mais il y aura une sensibilisation spécifique à l'enseignement des mathématiques où les gestes pédagogiques seront analysés, décortiqués. On sait par exemple qu'inconsciemment, les professeurs interrogent davantage les garçons que les filles en mathématiques car elles lèvent moins la main. Mais pour Marian Petit-Fils, professeur de mathématiques en collège, ça va au-delà.
Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des stéréotypes de genre qui sont très ancrés par rapport aux mathématiques. Les élèves garçons se sentent beaucoup plus légitimes à répondre et à donner des réponses en mathématiques que les filles. Donc ça, c'est documenté. Et c'est vrai que ça peut être quelque chose en tant qu'enseignant. Parfois, on peut être vraiment confronté. Moi, j'ai encore le cas cette année, par exemple, avec une classe où les élèves garçons prennent beaucoup plus facilement la parole que les filles, alors même qu'au niveau des résultats, les filles ont des résultats tout à fait équivalents aux garçons.
Un autre exemple, sur le bulletin scolaire, une bonne élève est généralement décrite comme consciencieuse, n'est-ce pas Anne ? Tandis que son équivalent masculin aura plus facilement tendance à être qualifié d'élève brillant. Dans chaque salle des profs, il y aura donc une charte qui casse ces stéréotypes.
Ah mais oui, tout le monde peut être brillant. Laurence, la ministre de l'Éducation nationale donc veut attirer davantage de filles, surtout dans les formations au métier d'ingénieur et du numérique.
Oui, au lycée, la ministre de l'Éducation demande aux chefs d'établissement et aux enseignants d'encourager les filles à choisir et à conserver la spécialité mathématique. Son but, encore beaucoup de chiffres, hein, je suis désolée, avoir d'ici à 2030 30 000 filles de plus qui choisissent les maths en première et les conservent en terminale, soit 5000 filles de plus chaque année dès 2025. Pour autant, il n'est pas question de fixer des quotas, assure la ministre de l'Éducation nationale.
Dossier signé de la brillante Laurence Théo.
RFI. La France à midi.
Comme chaque jour, entretien avec une personnalité politique. Véronique Rigolet, vous recevez aujourd'hui en studio Éléonore Carrois, députée, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale et vice-présidente de la Commission des affaires étrangères.
Bonjour Éléonore Carrois.
Bonjour.
Bienvenue sur RFI en cette journée intense sur le plan diplomatique, alors que le président Macron reçoit en ce moment même le tout nouveau chancelier allemand Friedrich Merz dans la pure tradition du couple franco-allemand. Avant une autre visite plus controversée, celle-ci, celle du président syrien Al-Sharra. Première visite en Europe pour l'ex-djihadiste de Daesh, devenu président par intérim de la Syrie post-dictature, post-Bachar. La droite, l'extrême droite française, dénonce aujourd'hui une lourde erreur. Éléonore Carrois, est-ce que le président Macron ne fait pas un pari risqué en recevant aussi vite Al-Sharra à l'Élysée ?
Moi, j'entends les critiques qui viennent de la droite, vous l'avez dit, de l'extrême droite, mais aussi d'autres personnes et des concitoyens. Pourquoi recevoir une personnalité aussi controversée avec un tel passé ? Mais la réponse est en fait assez simple. Aujourd'hui, c'est le président par intérim de la Syrie. La Syrie, qui est sur le plan géopolitique, est un pays stratégique pour la France, parce que rappelons que c'est quand même de ce pays que partent tous les narcotrafic déjà, c'est aussi de ce pays qu'il y a ces vagues migratoires qui ont déstabilisé l'Europe, et c'est aussi de ce pays que sont partis un grand nombre de djihadistes. Donc il faut évidemment avoir un dialogue exigeant avec la personne qui aujourd'hui est à la tête de ce pays, pour lui rappeler aussi quelles sont les attentes de la France. Et je terminerai peut-être par cette remarque, c'est-à-dire que le fait qu'il choisisse la France comme pays avec lequel il va entamer un dialogue avec l'Europe, disons comme pays porte d'entrée, pour reprendre ces termes, est important et montre que notre pays pèse toujours sur le plan diplomatique et a un message à porter.
On voit les considérations stratégiques et diplomatiques, mais qu'est-ce qui pousse à nouveau la France, qui se défend de toute naïveté par ailleurs, à penser qu'Al-Sharra a bien tourné le dos à son passé djihadiste et qu'il ne ferme pas les yeux par ailleurs sur les exactions de ces derniers mois, de ces dernières semaines, notamment contre les minorités alaouites, druzes, 1700 morts quand même.
Oui, absolument, mais je pense pas que ce soit...
C'est pas la question.
C'est pas la question, c'est qu'il n'y a pas du tout de naïveté et qu'il n'y a pas du tout, d'acceptation qui l'aurait changé. Il y a juste un principe de réalité qui, comme je vous le disais, je vous parlais du narcotrafic avec le Captagon qui part de Syrie, je vous parlais de migration, je vous parlais de risques terroristes réels. C'est véritablement une volonté de dialoguer, de maintenir un pont, une courroie de transmission, sans pour autant, à aucun moment, ne cautionner ni ne penser qu'il a changé. C'est juste, c'est la personne qui est aujourd'hui à la tête de ce pays, il faut lui parler.
Même s'il y a encore des doutes, Al-Sharra et sa coalition islamiste, c'est un moindre mal par rapport à des scénarios plus sombres, le retour justement de Daesh en Syrie.
Écoutez, c'est très difficile de le dire. Aujourd'hui, moi, personnellement, il ne m'apporte aucune garantie. Moi, je ne lui fais absolument pas confiance. Et ce n'est pas quelqu'un que je cautionne à aucun point que ce soit. C'est juste la personne qui est là, qui a permis quand même de renverser un régime, disons-le, qui était dictatorial. On a vu, on se rappelle de ces images atroces des prisons syriennes. Et donc, aujourd'hui, ce pays est déstabilisé. Il est en proie à toute forme de mouvements les plus extrémistes les uns que les autres. Et il est important de maintenir un dialogue. Et maintenir un dialogue, y compris avec des personnalités peu recommandables, c'est ça ce qui fait la diplomatie. Et c'est très différent de ce que fait, par exemple, l'extrême droite, le Rassemblement national, qui se met entre les mains de régimes d'extrême droite, comme ils l'ont fait lorsqu'ils avaient Poutine pour créancier.
Voilà, ne pas soutenir Al-Shara aujourd'hui, c'est dérouler le tapis rouge à Daesh, dit le Quai d'Orsay.
Peut-être, et moi je dirais même que le fait de le recevoir à Paris, ça ne veut pas dire que l'on le soutient. Loin de là, ça veut dire que l'on entame ce dialogue exigeant.
Est-ce que cette première visite en Europe, justement, ce dialogue exigeant que va avoir et que demande le président français envers ces nouvelles autorités syriennes, est-ce que ça pourrait être le prélude à une prochaine levée des sanctions européennes que réclame Damas dans un pays, on le sait, complètement exsangue après 15 ans de guerre civile?
C'est en tout cas un sujet qui sera débattu et qui sera discuté, mais à mon sens, on n'en est pas là.
C'est trop tôt encore.
Clairement, et puis surtout, il faut des garanties. Des garanties, vous l'avez dit à très juste titre, par rapport aux minorités. Vous avez rappelé ce qui s'est passé avec les Druzes, les Alaouites. Aujourd'hui, on n'en est pas du tout là. Je pense qu'on entame une discussion et la question, c'est s'assurer justement que ce pays ne sombre pas dans un régime encore pire et puis surtout garantir que les minorités seront protégées. Puis rappelons, on est près du Liban aussi, pays qui est très important pour la France.
Oui, accompagner la transition en Syrie. C'est également assurer plus de stabilité au Liban voisin, une stabilité régionale qui est toujours l'une des priorités du président Macron.
Absolument, et de la France et des Français.
L'autre grande visite du jour, beaucoup plus consensuelle cette-ci, hein, c'est bien sûr celle du chancelier allemand Friedrich Merz, visite dans la grande tradition, on l'a dit, du couple franco-allemand. Qu'est-ce qu'on peut attendre là encore de cette visite au lendemain, on l'a vu, hein, d'une investiture qui a été très compliquée pour le chancelier, élu seulement au deuxième tour? Est-ce que ce faux départ, en quelque sorte, peut nous inquiéter, Éléonore Carroix, dans le sens où il montre d'ores et déjà la fragilité du nouveau dirigeant allemand?
Oui, bon, ça fait des mois qu'on retient un peu notre souffle parce qu'on voit ce qui se passe outre-Rhin. On a vu le poids qu'a pris l'AFD. On voit les ingérences étrangères aussi dans tout ce qui a été ce processus électoral. On est rassuré que ce soit une personnalité pro-européenne qui a envie de réentamer un dialogue avec la France, de véritablement reconstruire ce couple franco-allemand qui est pivot dans la construction européenne et qui est aussi prêt, et ça c'est nouveau, à se détacher un peu de cette dépendance américaine. Et donc moi je pense que c'est peut-être une nouvelle page qui s'écrit par la force des choses, hein, parce que c'est difficile, qui va nous permettre de devenir davantage souverain et de construire encore davantage l'Europe.
Après des années difficiles, hein, des relations plutôt fraîches durant la mandature d'Olaf Scholz, l'axe Paris-Berlin va pouvoir se relancer avec un chancelier qui a pris clairement position en faveur de cette Europe de la défense face aux menaces russes et face au désengagement américain. Ça, c'est un point commun fort qui peut permettre à la relation de se rétablir.
Oui, absolument. Alors, il y avait déjà certaines étapes qui avaient été franchies. On avait aussi fait ce format Weimar avec la Pologne. Et il y avait eu des rencontres entre Olaf Scholz, le président Macron et le président Tusk. Mais je pense que, véritablement, une personnalité comme Friedrich Merz va incarner cette Europe souveraine, cette Europe qui a envie de s'armer de manière indépendante des États-Unis, surtout de ne pas dépendre du bon vouloir du président Donald Trump.
Et il a donné des gages en renonçant à la règle d'or budgétaire, ce qui en Allemagne est une véritable révolution.
Absolument, absolument. Et non, il y a beaucoup de changements et je pense que ça va bien au-delà de ce qui est dit. Je pense que les premières décisions montrent que l'on est dans cette reconstruction européenne.
Toujours de grandes divergences, hein, néanmoins, notamment, on le citera, ne serait-ce que lui, sur l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Et la réalité est que l'Allemagne, on le sait, défend toujours, in fine, ses priorités par rapport à l'intérêt européen. Ça va rester également une autre règle d'or pour Berlin. On en est conscient à Paris.
Alors sur le Mercosur, c'est un sujet que je connais bien en tant que députée des Français d'Amérique latine et des Caraïbes. Moi, je pense qu'il faut regarder notre relation commerciale avec l'Amérique latine, avec le cône sud, de manière plus dépassionnée que ce n'a été le cas ces derniers temps à Paris, parce que avec les droits de douane américains, avec la guerre commerciale qui a été véritablement lancée par Donald Trump, il faut se trouver des nouveaux alliés. Ça ne veut pas dire changer d'avis sur cet accord en particulier qui ne présente pas les garanties environnementales que la France demande depuis 2019.
Ah, toujours pas d'accord avec l'Allemagne là-dessus.
Mais on peut être d'accord en revanche avec l'Allemagne sur la nécessité de renforcer nos échanges commerciaux avec l'Argentine, avec le Brésil, avec tous les autres pays du Mercosur.
Vous évoquiez il y a un instant la Pologne, justement. Est-ce que le moteur franco-allemand suffit toujours comme force, comme seule force d'impulsion au sein de l'Union européenne, ou est-ce que face à cette guerre en Ukraine, face aux menaces russes qu'on évoquait également, ce couple n'est pas en passe de devenir, pas un couple à trois, mais un trio avec la Pologne, justement. Hein, on notera que le chancelier a préparé, là, on le voit en ce moment en pleine conférence de presse, juste à préparer, il file à Varsovie, et le président français de son côté va rencontrer le Premier ministre Tusk.
Oui, moi je pense que c'est une bonne chose en réalité, que que la construction européenne ne repose pas sur un couple, sur finalement des affinités aussi personnelles entre des dirigeants français et allemands. Je pense que c'est important qu'il y ait d'autres pays qui s'engagent, parce que ça, c'est aussi des garanties qui sont données à l'ensemble de l'Union européenne. Et d'ailleurs, on le voit avec un certain nombre d'accords qui ont été signés ces derniers temps, comme l'accord de Barcelone avec l'Espagne, l'accord du Quirinal avec l'Italie. On renforce la coopération avec les pays qui sont demandeurs, et je pense que globalement, c'est une bonne chose pour l'Europe.
Et c'est rendu complètement nécessaire par la nouvelle situation du monde dans lequel on est aujourd'hui, avec le retour de Trump et avec un Vladimir Poutine qui ne veut pas lâcher sa guerre en Ukraine.
Oui, et j'insiste sur ça.
Oui, sur ce rôle de la Pologne, oui.
Sur le rôle de la Pologne, mais surtout sur le rôle de l'Union européenne. Imaginez, parce qu'on parlait de Frexit il y a encore quelques années, imaginez si on n'avait pas cet ensemble, si on n'avait pas cette coordination entre 27, même si elle est difficile, même si on n'est pas d'accord sur tout, eh bien on n'en serait pas là dans le monde partagé entre Donald Trump et Vladimir Poutine.
Dans ce monde dangereux, ce sera le mot de la fin. Merci, Éléonore Carrois, députée Renaissance, vice-présidente de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup.
Entretien à retrouver sur internet rfi.fr.
RFI. La France à midi.
Je vous propose maintenant une rencontre avec Mahmoud Abdi Mohamed, somalien et pirate repenti. Il a passé des années en prison après son arrestation à 22 ans pour la prise d'otage du voilier Le Tanit dans le golfe d'Aden. Après sa sortie de prison il y a 10 ans, il a travaillé, il s'est réinséré dans l'Ouest, en Bretagne, où Amélie Beaucourt l'a rencontré. Mais désormais, c'est l'inquiétude qui domine parce que Mahmoud Abdi Mohamed est menacé d'expulsion du territoire français.
C'est dans l'arrière-cour d'un café dans un petit village de Bretagne qu'Abdi s'assoit pour nous raconter son histoire. Elle commence à 10 000 km d'ici, en Somalie, il y a 16 ans.
L'opération française de sauvetage du Tanit tourne au drame. Un otage tué, 4 autres libérés. L'armée française a mené une opération militaire contre les pirates somaliens.
Le pirate, c'est lui, Abdi. Jeune pêcheur tombé dans l'engrenage d'une mafia locale qui envoie de jeunes hommes à la mer avec pour seule option de survie le pillage de navires. Il se souvient du premier voyage.
On est parti 11 jours, tout droit. Et le gasoil, c'est presque fini. On n'a pas d'eau, on n'a pas mangé. On reste là-bas toute la journée, soleil qui vient là. On est à 900 mètres de côte. Ça veut dire, t'es mort, c'est comme ça.
Arrêté puis jugé en France après l'assaut du Tanit, Abdi accepte sa sentence. 9 ans de prison, avec l'espoir ensuite d'un nouveau départ. Il apprend le français et à sa sortie se fait embaucher. 10 ans de tranquillité qui s'arrête brutalement.
Je décidais, je travaillais aux restaurations. Un jour, je reçois une lettre de recommandé pour dire je n'ai pas le droit de travail, je suis acquitté, je suis menace de l'ordre public. Après, j'ai perdu mon travail parce que le patron il va pas me garder parce que il est hors de la loi s'il me garde.
Refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français, assorti d'une interdiction de retour en France sous 5 ans, au motif qu'il serait une menace à l'ordre public. Pascal, une amie d'Abdi, l'a aidé à saisir le tribunal administratif.
Le recours qu'a fait Abdi, c'est de demander la suppression de ces 4 choses. Ils ont un peu coupé la poire en deux, c'est-à-dire qu'ils ont dit non, c'est pas une menace à l'ordre public. Et oui, il pourra rentrer en France avant 5 ans. Par contre, on lui maintient l'OQTF et on refuse le titre de séjour.
Son avocate a fait appel de la décision, mais toujours pas de réponse. Et en attendant, Abdi est coincé.
Je paye le retraite, je paye les impôts, mais maintenant, je n'ai droit de chômage, ni droit de travail, ni droit de vivre. En Somalie, moi, je connais presque personne. Maintenant, je connais que ma mère, mais ma mère, je pense, elle ne me connaît pas. Tous les copains que je connaissais avant, soit ils sont morts, soit ils sont en Europe, parce qu'au pays, c'est sécheresse, il n'y a pas de travail, la pêche, il n'y a rien. Il n'y a pas de poisson, il n'y a rien. Moi, ma vie, c'est en Bretagne, moi, je suis breton, moi.
Un comité de soutien d'une centaine de personnes s'est constitué justement en Bretagne, et parmi elles, Chloé Lemasson, ancienne otage et femme du skipper tué dans l'assaut du Tanit il y a 16 ans.
Reportage d'Amélie Beaucourt à retrouver comme toutes nos informations sur l'appli RFI Pure Radio. Restez avec nous dans une minute, l'actualité européenne.
RFI, la sélection du mois.
The Flame et H The Best. Missy et Sadi.
RFI Musique. Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Elle voulait à tout prix réaliser le rêve de son père, réunir pour un concert 4 Stradivarius. Mais l'ego des artistes va transformer ce rêve en cauchemar. La comédie Les Musiciens sort cette semaine sur les écrans en France. Grégory Magne, le réalisateur, et l'acteur principal Frédéric Pierrot seront avec nous.
Sur le Pont des Arts,
avec la compagnie Corsair.
Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.